Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon? On fait pas chier.
On essaye? Allez.
Salut à tous et à toutes et bienvenue à Retour à l'écran Express. C'est moi Mick qui aujourd'hui vais vous raconter par le menu la fabrication d'un chef-d'œuvre incontournable du cinéma français. Primé au César, aux Oscars, à Cannes, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Je veux bien sûr parler de l'adaptation de Cyrano de Bergerac par le méticuleux Jean-Paul Rapneau avec l'immense Gérard Depardieu. Un film sorti en France le 28 mars 1990, le même jour que la comédie Allô Maman, ici bébé avec John Travolta, et aussi le film d'action Tango et Cash avec Stallone et Kurt Russell. Un long métrage hors norme qui a failli ne jamais voir le jour tant l'exigence était élevée et le budget conséquent. On va voir ensemble que ce classique instantané doit sa qualité formelle et narrative à l'investissement de son équipe 4 étoiles guidée par la pugnacité de son réalisateur. Et à la fin de l'envoi, je touche.
J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Roxane, je voudrais...
Christian !
Cyrano est un brillant poète qui est amoureux de sa cousine Roxane. Malheureusement, il est tellement complexé par son nez, qui est très grand, qu'il n'ose pas avouer son amour à la jeune femme. Par ailleurs, le comte de Guiche, un noble très puissant, est également amoureux de Roxane. Il souhaiterait l'épouser, mais elle se refuse systématiquement à lui. Il faut dire qu'elle n'est pas insensible au charme de Christian, un jeune et beau soldat qui est également attiré par Roxane. Cyrano décide alors d'aider Christian en lui écrivant des lettres d'amour pour lui permettre de conquérir le cœur de Roxane. La jeune femme, croyant que les messages sont écrits par Christian, tombe amoureuse de lui. Cyrano se dévoue alors corps et âme pour aider Christian à conquérir Roxane, même si cela signifie qu'il devra souffrir en silence. Et les événements prennent une tournure dramatique lorsque Christian est envoyé au front et que Cyrano se bat à ses côtés pour protéger Roxane. Évidemment, on connaît tous Cyrano de Bergerac qu'Edmond Rostand a écrit à l'âge de 29 ans, à la fin du 19e siècle. C'est une pièce en 5 actes, en vers, qui détonne à une période où le romantisme tend à disparaître au profit des vaudevilles, du théâtre de boulevard et surtout du drame réaliste. Rostand s'inspire à la fois de l'œuvre et de la vie très brève de l'écrivain libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, qui a vécu au XVIIe siècle. Le personnage de Rostand prouve avec panache qu'il est possible de garder la tête haute, un sens de l'honneur exceptionnel et une grande noblesse d'esprit, même face à l'adversité. Dès sa première représentation le 28 décembre 1897, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin dans le 10e arrondissement parisien, c'est un triomphe. Cette pièce de théâtre tombe à pic pour remonter le moral d'une France encore traumatisée et humiliée par la perte de l'Alsace-Lorraine en 1870. À tel point qu'Edmond Rostand est même décoré commandeur de la Légion d'honneur le 1er janvier 1898, soit 4 jours après la première de la pièce. C'est aujourd'hui l'une des pièces les plus populaires du théâtre français, traduite dans plusieurs langues et qui a un succès universel.
Envoie, prince, demande à Dieu pardon. Je parte du pied, j'escarmouche, je coupe, je pince et là donc. À la fin de l'envoi, je dis.
Et justement, durant la Deuxième Guerre mondiale, Jean-Paul Rapneau n'a pas encore 10 ans lorsqu'il se rend pour la première fois de sa vie à la Comédie française. Il assiste à une représentation de Cyrano de Bergerac, avec André Bruno dans le rôle titre et mise en scène par Pierre Dux. L'occasion pour le jeune Auxerrois de découvrir Paris, le théâtre et Cyrano. Un triple choc dont il avoue ne s'être jamais totalement remis. Une fois chez lui, comme beaucoup de gens de sa génération, le petit Jean-Paul apprend par cœur tous les morceaux de bravoure de la pièce. Il se met à faire du théâtre. Son premier contact avec le cinéma se fait après la Libération et particulièrement du cinéma américain. Un des premiers films qui le marque, c'est le Robin des Bois de Michael Curtis avec Errol Flynn.
Soyez la bienvenue à Sherwood, gentlemen. Comment, messieurs Charles, vous ne me savez même pas comme c'est curieux. Vous aviez pourtant juré que si vous me retrouviez, vous me feriez un accueil plus chaud.
Et cette passion devient plus forte que le théâtre. Il passe son temps au cinéma. Il est un membre actif du ciné-club d'Auxerre et un jour, il découvre Citizen Kane d'Orson Welles. Et là, c'est le déclic pour Jean-Paul Rapneau. Il fera des films. Ses parents lui offrent une caméra 16 mm le jour où il obtient le bac. Il se met à faire un court-métrage, puis il monte sur Paris où il tourne un deuxième court-métrage. Et dans les années 50, il débute dans le cinéma comme assistant réalisateur pour Molinaro, Dreville, avant de rapidement devenir scénariste. C'est lui qu'on retrouve derrière des films comme Signé Arsène Lupin d'Yves Robert, Zazie dans le métro de Louis Malle, ou encore L'homme de Rio de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo.
Écoute, un déserteur qui voyage dans une voiture volée avec une hystérique, de deux choses l'une. Ou c'est un névropathe, ou c'est un blasé, choisis.
Avance.
Si je veux.
Bon, je descends.
Pas descendre.
Pourtant, il a toujours eu en tête de réaliser. Et c'est son ami Alain Cavalier qui le pousse à écrire ce qui devient son premier long métrage, La vie de château, qui sort en 1966. C'est une comédie romantique qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Philippe Noiret, Catherine Deneuve et Pierre Brasseur. Avec 1 700 000 entrées au compteur, le film est un succès public. Les critiques aiment également le film qui reçoit aussi le prestigieux prix Louis de Luc, l'équivalent du prix Goncourt.
Oh, voilà, vous n'avez pas honte à votre âge, hein ? Alcoolique, sac à vin, hein ?
Bougez pas et donnez-moi la grenade.
Vous êtes fou ?
Non, un instant, messieurs !
Jean-Paul Rapneau, c'est un réalisateur méticuleux qui prend son temps pour peaufiner ses films. Il s'écoule 5 ans entre La vie de château et son deuxième film Les Mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert. Il lui faut à nouveau 4 ans pour enchaîner sur Le Sauvage en 1975 où il retrouve Catherine Deneuve face à Yves Montand. Et 7 ans plus tard, il livre Tout feu tout flamme avec à nouveau Yves Montand mais cette fois aux côtés d'Isabelle Adjani et qui sort en janvier 1982. Des comédies toujours ambitieuses, mouvementées et donc coûteuses, mais qui sont plébiscitées autant par la presse que par le public. Les Mariés de l'an 2, Le Sauvage et Tout feu tout flamme dépassent tous les 2 millions d'entrées. Début 1984, 2 ans après la sortie de Tout feu tout flamme, Jean-Paul Rapneau planche depuis plusieurs mois sur un nouveau film qui se déroule dans le milieu de la mode. Chic, c'est son titre, réunirait les deux comédiennes stars, Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. Catherine Deneuve serait une rédactrice de mode gênée par l'arrivée d'une jeune femme envahissante. En parallèle, au début des années 80, Fernand Lombroso, le directeur artistique du théâtre Mogador, se rend compte que la pièce de Rostand vient de tomber dans le domaine public, ce qui signifie qu'il n'y a plus besoin de payer des droits d'auteur aux ayants droit. Lombroso propose alors à l'incontournable metteur en scène Jérôme Savary de monter la pièce avec Jacques Weber dans le rôle titre. Et dès le 1er octobre 1983, c'est un franc succès. En 2 ans, Weber donne plus de 500 représentations. Et ce succès considérable et l'accès gratuit au texte donnent des idées à la Gaumont. Elle en parle alors à l'agent artistique Jean-Louis Lévy qui représente Jean-Paul Rapneau. Et un matin du printemps 1984, Jean-Louis Lévy appelle le réalisateur en urgence. La Gaumont pense naturellement à Jean-Paul Rapneau puisqu'elle a produit Les Mariés de l'an 2, un film en costume, avec des duels et avec aussi Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Rapneau a 1 heure pour répondre si le projet l'intéresse. Et après avoir raccroché, Rapneau réfléchit. Le personnage de Cyrano porte en lui une contradiction. Il fanfaronne, mais il craint les femmes. Et il devient même timide par moments. Il s'exprime abondamment sur son nez, cette péninsule dont il exagère volontairement l'importance, ce qui cache évidemment autre chose. C'est donc un homme qui ne s'aime pas et qui porte une blessure. Et sous cette difformité se cache un beau prince. Alors c'est vrai, Belmondo pourrait effectivement être intéressant. Mais Jean-Paul Rapneau pense rapidement à un autre comédien dont il voue une admiration grandissante, Gérard Depardieu. Un acteur à l'aise dans tous les registres comme il l'a démontré dans Les Valseuses ou encore Le Retour de Martin Guerre. Et Rapneau est séduit en particulier par son travail dans les 2 films de François Truffaut, Le Dernier Métro et La Femme d'à côté. Il perçoit chez Depardieu toutes les qualités requises pour interpréter Cyrano. Le physique monumental et la force, mais aussi une souffrance cachée dans une voix fragile et vulnérable. Rapneau répond donc à Jean-Louis Lévy et à La Gaumont qu'il est intéressé, mais seulement avec Gérard Depardieu dans le rôle titre, et surtout après s'être replongé dans la pièce pour étudier les possibilités de retranscription au cinéma. La Gaumont accepte. Rapneau en parle rapidement à son ami, le prestigieux écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, qu'on retrouve derrière La Piscine, Borsalino ou encore Danton, avec Depardieu justement, sorti un an plus tôt en 1983. Les deux hommes se connaissent bien. Sans être nécessairement crédité, Jean-Claude Carrière a plusieurs fois posé son regard sur les scénarios des films de Rapneau, sur l'intrigue, les dialogues. Mais le scénariste n'est pas un inconditionnel de la pièce de Rostand. Il n'aime ni l'autosatisfaction du personnage, ni le caractère ostentatoire des vers. Mais Carrière est un homme érudit et féru d'histoire. Et il est justement intéressé par l'époque tumultueuse où se situe l'action de Cyrano, celle de la guerre de 30 ans et de la Fronde. Il accepte donc, et un soir, il accompagne même Rapneau au théâtre Mogador pour voir la pièce Cyrano jouée par Jacques Weber.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Et pendant la représentation, Jean-Paul Rapneau est partagé. D'un côté, il trouve que la pièce de Rostand contient des redites, des tunnels, des fioritures, et en plus elle a un aspect fin de siècle très daté pour lui. Et pourtant, il finit en larmes. Si les années ont passé depuis sa découverte 40 ans plus tôt, l'émotion, elle, est restée intacte. En sortant du théâtre, Rapneau essuie ses larmes et dit à Jean-Claude Carrière « Il y a du boulot ».
Et c'est vrai qu'il y avait du boulot, la pièce dure 3h30 et il y a beaucoup de situations totalement inexplicables. L'armée française est entièrement encerclée par l'armée espagnole à Arras, ils crèvent de faim et cependant tous les matins, Cyrano va poster une lettre à Roxane comme si elle venait de la part de Christian. Donc comment faire ça, ça au théâtre, ça se passe en coulisses. Cinéma, c'est impossible.
Les deux hommes se mettent rapidement au travail. Rapneau visionne toutes les adaptations filmées de Cyrano. Deux films muets italiens, le film de 1946 de Fernand Rivers avec Claude Dauphin, le film américain de Michael Gordon avec José Ferrer, et même le téléfilm de Daniel Storaro que la France entière a vu le soir de Noël 1960. Mais aucun de ces films ne lui plaît. Ils sont trop fidèles, trop respectueux du texte, et surtout terriblement immobiles. Alors que pour Jean-Paul Rapneau, Cyrano évoque l'action, le rythme, le dynamisme. Pour lui, il ne s'agit pas de faire une simple mise en image de la pièce, mais de réaliser un film réaliste, dynamique et tendu.
Il y a un tel mouvement suggéré dans la pièce, mais hélas pas montré parce que c'est la scène, on ne peut pas courir partout dans le théâtre, alors que dans le film, nous avons voulu mettre le mouvement partout. Le mouvement des vers, des alexandrins, est accompagné par le mouvement des acteurs, tout le temps. C'est comme un ruban qui se déroule.
Rapneau et Carrière analysent et mettent à plat les 5 actes de Rostand, puis les adaptent pour l'écran. Ils s'efforcent de diversifier les lieux de l'action et retravaillent le texte. Mais ils ne doivent jamais en modifier le sens. Et pas question non plus de transposer l'action de nos jours. Ils évacuent du texte pas mal de redites, d'allusions mythologiques ou précieuses strictement incompréhensibles aujourd'hui. Ils raccourcissent souvent, mais ajoutent également quelques séquences de leur cru, souvent muettes. Ils rendent également Cyrano plus humain et conservent le paradoxe séduisant du personnage. À la fois militaire, responsable de l'ordre et partisan de la discipline, mais aussi poète qui ne supporte pas l'ordre que le militaire lui impose. Cyrano incarne parfaitement cette contradiction de l'ordre et du désordre. Pour Rapneau et Carrière, ce thème de l'être et du paraître est admirable et le sacrifice de Cyrano va bien au-delà du mélodrame.
Enfin, tu conviendras.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Mais que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce à... grimper par ruse ! Au lieu de s'élever par force ! Non, merci !
Il cherche également à redonner de l'éclat aux autres personnages qui paraissent souvent bien pâles aux côtés de Cyrano. Ils reconstruisent et renforcent donc le personnage de Christian, et Roxane, qui est souvent interprétée au théâtre par des dames d'un certain âge jouant les coquettes, redevient ce qu'elle est vraiment, une jeune fille sensible qui a lu trop de livres. Une femme amoureuse sans le savoir de deux hommes, d'une voix qui s'exprime et d'un corps qui paraît. Et bien sûr, toutes ces transformations nécessitent une réécriture en vers. Jean-Claude Carrière écrit une bonne centaine d'alexandrins avec uniquement des mots employés par Rostand, ça c'est très important pour lui. Et c'est comme ça qu'il réduit parfois 2 pages entières de la pièce à seulement 6 alexandrins. Rapneau, lui, voit ces alexandrins qui courent le long des scènes comme une musique, une sorte d'opéra verbal. Pour lui, ces vers disloqués, hachés, acrobatiques, ces rimes extravagantes seront d'étonnants dialogues de cinéma. D'ailleurs, durant l'écriture, Rapneau demande à Depardieu de s'enregistrer jouant tous les rôles de la pièce, y compris féminin, ce qui sert de guide aux 2 scénaristes en termes de tempo et d'émotion. Et enfin, comme un souvenir de sa propre enfance, Rapneau s'arrange pour que le film démarre sur le regard d'un enfant.
Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est possible au fond, de commencer avec l'histoire d'un enfant qui va pour la première fois au théâtre et qui voit le vrai personnage de Cyrano. Donc j'ai vraiment eu le sentiment, quand j'écrivais, de le raconter comme j'étais le narrateur, l'enfant narrateur.
À la fin de l'été, Rapneau rend ce premier traitement à Alain Poiré, le patron de la Gaumont, et le réalisateur explique sa vision. Ce sera en alexandrin, mais pas du théâtre filmé, non, non. Ce sera un grand film, visuellement superbe, au moins aussi beau qu'Amadeus, actuellement en salle, voire même plus fort. Mais Miloš Forman a eu un budget de 18 millions de dollars pour son génial biopic sur Mozart. À titre de comparaison, Gremlins, sorti la même année, en a coûté 11. Et à cet instant, Alain Poiré se souvient que le tournage des Mariés de l'an 2 avait été bien plus long que prévu et que la Gaumont avait dû se battre pour que Rapneau tienne son budget dans les limites du raisonnable. Et devant les ambitions affichées pour Cyrano, le producteur prend peur et quelques jours plus tard, le projet est finalement abandonné. Et il va rester en sommeil pendant 3 ans. Nous sommes en 1987. Rapneau est retourné à l'écriture de Chic, son projet avec Deneuve et Adjani, mais il ne connaît pas bien le milieu de la mode et il a du mal à en retranscrire l'atmosphère. En plus, si Adjani aime beaucoup le scénario, Deneuve, elle, est plus mitigée. Bref, le développement patine un peu. Depardieu, de son côté, a depuis enchaîné Police de Piala, Jean de Florette de Claude Berry et Tenue de soirée aux côtés de Michel Blanc et Miu Miu. Le film de Bertrand Blier a été sélectionné à Cannes l'an passé et permet même à Michel Blanc de recevoir le prix d'interprétation masculine. Tenue de soirée a aussi cumulé 3 millions de spectateurs et 7 nominations au César. Même s'il repart bredouille, c'est un franc succès public autant que critique. Le film est coproduit par Gérard Depardieu lui-même, en compagnie de Philippe Dussart, le producteur de Touffe le Touffe-Flamme, mais aussi par René Kletman, un ancien directeur des programmes d'Europe 1, qui s'est reconverti dans la production. Le sulfureux La femme publique de Zulowski et La liste noire, un polar avec Annie Girardot, sont les deux premières productions de sa société Hachette Première, une filiale du groupe éditeur de livres. Et enfin, depuis Tenue de soirée, Kletman s'entend à merveille avec Depardieu. Et au printemps 1987, René Kletman prend un déjeuner avec Jean-Louis Lévy, l'agent artistique à la fois de Rapneau et de Depardieu. Et au milieu du repas, Jean-Louis Lévy dit « À propos René, Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rapneau. » La question sonne comme une évidence dans l'oreille de Kletman. Un déjeuner est alors organisé entre Kletman et Rapneau, qui s'entendent à merveille. Ils parlent de Depardieu qui n'a pas oublié le projet et qui donne immédiatement son accord. Mais le projet est toujours aussi ambitieux, et René Kletman est moins chevronné qu'Alain Poiret de La Gaumont. Il a donc besoin d'une coproduction. Il pense alors à son confrère Michel Sédoux, fondateur de la société Camera One en 1971, qui a coproduit des films comme Le Don Giovanni de Joseph Losey. Et Michel Sédoux, c'est le petit frère de Nicolas Sédoux, le PDG de La Gaumont, et de Jérôme Sédoux, qui sera quelques années plus tard, lui, le PDG de Pathé. Tout comme Rapneau, Michel Sédoux a vu Cyrano à la Comédie Française lorsqu'il était jeune, ainsi que la pièce avec Jacques Weber. Et il partage le sentiment général que la pièce doit être dépoussiérée, et il est également séduit par l'association Cyrano-Rapneau-Depardieu et l'ambition formelle du film. Cette fois, ça y est, le projet est réellement lancé.
Embrasse-moi, monsieur, brave.
Ah, ça m'est...
Très brave, je préfère.
Me direz-vous ?
Embrasse-moi, je suis son frère.
De qui ?
Mais d'elle. Hein ? Mais de Roxane.
Si elle vous, son frère ?
Ou tout comme, un cousin, fraternel.
Elle vous a...
Tout dit.
M'aime-t-elle ?
Peut-être.
Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître.
Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain.
Le budget du film est estimé à 100 millions de francs, soit 15 millions d'euros. Et avec l'inflation, ça revient à environ 26 millions d'euros d'aujourd'hui. Une somme importante compte tenu du pari risqué d'un film avec des dialogues en vers, mais qui est aussi nécessaire face à l'ambition formelle du projet. Les décors du film sont confiés à l'italien Ezio Frigerio, à qui l'on doit par exemple ceux du film de Bertolucci, 1900. Cyrano le film doit reconstituer le Paris du XVIIe siècle et se tournera aux quatre coins de la France. En Bourgogne-Franche-Comté, à l'abbaye de Fontenay et à Dijon, puis au Mans, à la cathédrale de Saint-Julien, en Seine-et-Marne notamment à Fontainebleau dans la cour ovale du château, et aussi sur les berges du Loing, à Moret-sur-Loing. En Vendée, à Fontenay-le-Comte, et enfin dans le Gard à Uzès. Mais pour reconstruire l'hôtel de Bourgogne, le théâtre et surtout le siège d'Arras, la production opte pour une délocalisation en Hongrie. Précisément à Budapest et ses environs, ainsi qu'à Eger à 140 km plus à l'est. Plusieurs raisons à cela. La main-d'œuvre y est moins chère qu'en France, on y trouve une architecture encore dans son jus, et Rapneau y a déjà tourné plusieurs spots publicitaires. En tout, ce seront 40 décors différents répartis entre la Hongrie et la France, construits en studio ou en aménagement extérieur. C'est aussi plusieurs hectares ensemencés pour recréer la végétation du siège d'Arras, mais aussi l'élargissement d'une rivière et le réaménagement d'une forêt entière.
Il est blessé !
Maintenu !
Mais non !
Juste un peu écorché !
Embrasse-moi, mordi !
Tu vas nous raconter
le récit du combat !
Oui, le récit !
Assez !
Il faut habiller également 2000 acteurs et figurants, donc 2000 costumes dont la moitié ont été spécialement conçus pour le film. C'est la créatrice de costumes Franca Squarciapino, conjointe du chef décorateur avec qui elle travaille régulièrement, qui est chargée de cette mission colossale. L'atelier de costumes fait travailler 50 personnes pendant 5 mois pour la confection de la garde-robe. Et Franca Squarciapino excelle dans le mélange de belles étoffes en soie, en velours et en dentelle. En tout, 10 000 mètres de tissu, 6 000 boutons, 6 000 aiguillettes seront nécessaires ainsi que 500 paires de bottes spécialement créées pour chausser les cadets, les mousquetaires, les cavaliers et les soldats espagnols. À propos de soldats, ce sont plus de 1000 armes qui sont nécessaires. 300 épées, 500 piques, 150 mousquets, 100 pistolets, mais aussi 2 obusiers et une dizaine de canons. Pour parfaire les costumes, les perruques et les coiffures sont créées par le Canadien Paul Leblanc, qui a obtenu l'Oscar pour son travail sur Amadeus.
Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez ?
Moi ?
Qu'a-t-il d'étonnant ?
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe ?
Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ?
J'avais.
Il vous dégoûte, alors ?
Monsieur.
Malsaine vous semble sa couleur ?
Monsieur.
Sa forme obscène ?
Pas du tout.
Pourquoi donc prendre un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand ?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez. Hola !
Ciel !
Énorme, mon nez !
Évidemment, lorsqu'on parle de Cyrano, on doit parler de son nez. Et c'est la maquilleuse Michelle Burke, qui a travaillé sur La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, qui est chargée de créer le nez de Cyrano. Un postiche ajusté précisément sur le nez de Depardieu. Et tout le monde a un avis sur sa longueur. Pas grossier, pas trop long, pas trop court. La sculpture est évaluée au millimètre près. Ensuite, le postiche doit être changé chaque jour. Donc on fait un tirage dans une centaine d'exemplaires pour couvrir la totalité du tournage.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
En parallèle, le casting est lancé et c'est la comédienne Anne Brochet, 23 ans, qui est choisie pour interpréter la distinguée Roxane. Elle a été révélée par le film de Claude Chabrol, Masque, en 1986, qui lui vaut d'ailleurs une nomination au César du meilleur espoir, et puis par la suite, elle donne la réplique à Patrick Bruel dans La maison assassinée de Georges Lautner en 88.
Voilà, j'aime quelqu'un.
Ah.
Qui ne le sait pas d'ailleurs.
Ah.
Pas encore.
Ah.
Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore.
Ah.
Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire.
Ah.
Laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Et moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre.
Ah.
Et figurez-vous, tenez que... Justement, oui, mon cousin. Il sert dans votre régiment.
Ah.
Puisqu'il est cadet dans votre compagnie.
Ah.
Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau.
Beau ?
Quoi qu'avez-vous ?
Moi ? Rien.
Pour interpréter le personnage de Christian de Neuvillette, le bel amoureux, c'est le jeune acteur montant Vincent Pérez qui est retenu. On l'a vu dans Gardien de nuit de Jean-Pierre Limousin, Hôtel de France de Patrick Chéreau ou encore La maison de Jade de Nadine Trintignant. Pour incarner le comte de Guiche, à la fois damné par Roxane et subjugué par son adversaire Cyrano, la production contacte Jacques Weber. Ouais ouais, celui qui a triomphé sur scène en Cyrano. Mais Jacques Weber hésite. Et c'est Depardieu lui-même, avec qui il a joué dans Rive droite, Rive gauche de Philippe Labro, qui le convainc. Pour finir, citons également Roland Bertin de la Comédie Française, et qu'on a pu voir dans L'homme blessé de Patrice Chéreau, qui va incarner le restaurateur et poète Raguenaud.
Une recette en verre. Écoutez, mes amis.
Oui, oui, nous t'écoutons. Déjà, non.
Je dîne. Comment on fait les tartelettes amandines ? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs.
La pré-production avance bien. Comme à son habitude, Rapneau est très préparé. C'est avec sa sœur qu'il écrit son découpage technique, c'est-à-dire sa liste de plans avec un prémontage en tête. Le scénario, lui, n'a pas arrêté d'être peaufiné durant toute la préparation et il aura nécessité 5 versions avant d'être jugé définitif. Et c'est à ce moment-là que le casting est alors convié à l'Opéra Comique, à Paris, pour des répétitions organisées par Rapneau. Pendant un mois, la totalité des comédiens répètent le texte, tous assis autour d'une longue table. Pour l'occasion, le réalisateur a écrit une lettre comme une sorte de note d'intention à tous les comédiens qui lient à voix haute le premier jour. Et cette lettre fournit une idée assez précise de ce qu'il cherche. Il ne veut absolument pas qu'on déclame les vers comme de la prose. Au contraire, il faut respecter les fameux 12 pieds des alexandrins, il ne faut pas rater une seule syllabe, il faut prononcer les E muets et il faut donner la rythmique. Mais sans trop en faire non plus. Il y a donc un équilibre à trouver. C'est justement pour cela que la majorité des comédiens retenus sont des gens rompus au théâtre et à cette technicité.
Après avoir lu la lettre, je dis « Bon, bah écoutez, voilà, chers amis, on était peut-être 40 autour de la table. Alors, ben, on va lire dans l'ordre. Chacun va lire la réplique qui lui est consacrée. » Et très vite, je crois dans les premières secondes, arrive le personnage d'un garçon qui s'appelle Linière dans la pièce et qui est joué par, on avait distribué ça à Jean-Marie Vinling, et qui dit la première vraie réplique de la pièce, « Raguenaud, mon ami, pâtissier des poètes. » Il est un peu ivre. Bon. Alors, il le dit d'une manière parfaite pour les vers, mais en plus avec une humanité, une drôlerie. Et là, moi, je m'étais juré de ne pas interrompre les acteurs, de ne rien dire tant qu'ils n'ont pas tout joué. Et là, j'ai dit, stop, attendez, excusez-moi, là, je ne devrais pas prendre la parole, mais là, je voulais vous dire, parce que c'est ce qu'on cherche, ce qu'il faudrait que ce soit, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vient de faire, monsieur.
Cela dit, au bout de 2 semaines de répétition, Gérard Depardieu en a un peu marre.
Je crois que c'est Gérard lui-même qui a fini par dire « Bon, alors là, on ne va pas répéter sans cesse. Ou alors on amène une caméra, on fait le film. C'est pas la peine. » Donc on a interrompu. On dit « Bon, rendez-vous à Budapest. »
Le tournage démarre le 8 mai 1989 en Hongrie avec une équipe technique de plus de 200 personnes. C'est le chef opérateur Pierre Lhomme qui en signe l'image. Il a travaillé avec les plus grands, Melville, Bresson, Miller, Berry, Arcadi, Chéreau, et il vient tout juste d'être récompensé par le César de la meilleure photographie pour Camille Claudel de Bruno Nuiten. C'est le plus fidèle collaborateur de Rapneau sur tous ses films depuis le début. Mais dès le démarrage des prises de vue, dans le théâtre où s'ouvre le film, cela ne fonctionne pas. Le mouvement et l'action très physique désirés par Rapneau entrent en conflit avec le texte. Les comédiens, même les plus rompus à la discipline du théâtre comme Jacques Weber et Roland Bertin, ont du mal à garder le rythme et la musicalité qu'ils ont mis au point pendant les répétitions à Paris, assis sur leurs chaises. Ils ne contrôlent plus les répliques. Comment courir vite tout en parlant lentement? Rapneau a un petit coup de panique, mais petit à petit, tout le monde trouve ses marques et le nouveau tempo. Quand Rapneau est en tournage, il ne tient pas en place. Il faut dire que même s'il est très préparé et qu'il est pointilleux, il est entièrement dévoué à son film et donc très anxieux.
J'ai eu peur tout au long. Et je pense que cette peur m'a amené presque à me dépasser pour prouver que j'avais quand même raison. Oui, c'est ça. Ils verront que j'ai eu raison.
Même s'il fait de son mieux pour que ça ne pèse pas sur les autres, Rapneau attend de son équipe un investissement total comparable au sien pour le film. L'équipe tourne une semaine et Depardieu arrive la deuxième semaine. Et là, surprise.
Je travaillais en dessous de ce qui allait se passer quand j'arrivais en Hongrie. C'est-à-dire que tout ce que je faisais à Paris, c'était des petites esquisses de ce qu'on pouvait faire. Et Jean-Paul a été très surpris, y compris tout le monde d'ailleurs, que j'ai attaqué très très fort. J'ai attaqué très violent, il y a des nez. J'ai attaqué tellement fort, alors, il me dit « mais t'es sûr que c'est pas trop fort ?» Je dis « comment c'est pas trop fort ?» Je dis « je sais pas, moi je pense que c'est au moins ça, parce que si on veut sortir le théâtre dans la rue, il faut être aussi violent au moins. » C'est un pas violent panache, avec panache, véritablement violent. C'est quelqu'un qui souffre de cet homme, de ce Silène qui est en scène et qui le dit. Donc ça, il y a de la violence, c'est rentré, mais il faut quand même que les 400 ou 500 personnes dans le théâtre l'entendent. Donc il faut une énergie terrible.
Coquin ! N'étais-je pas interdit pour un mois ?
Quoi ?
Qui est-ce ?
C'est lui, j'ai gagné !
Roi des pitres ! Hors de scène à l'instant !
Ah, monsieur !
Tu récalcites ?
Chut, assez !
Bon Fleury, jouez !
Ne craignez rien !
Mais oui, qui noie des coups dans un lieu seul ! Eh bien ! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules ?
Le réalisateur reconnaît que Depardieu a raison. Et pendant quelques jours, Depardieu et lui s'apprivoisent un peu. Et à la fin d'un déjeuner, en sortant de table, il demande à Depardieu de faire attention à ce qu'il mange et de ne pas grossir durant le tournage. Des mots qui vexent le comédien.
C'est vrai que comme j'avais prononcé les mots qu'il n'aimait pas, ben on se donnait du mal, donc on avait faim. Et je lui ai dit, mais alors attention, tu vas redevenir, parce qu'il était très mince, comme on le voit dans le film. Tu vas redevenir gros, alors donc c'était fâché. C'est-à-dire qu'il est venu un jour taper à ma porte au soir et en disant, je ne veux plus que tu dises ce mot. Alors, tu me dis qu'aucun mot, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ben, le mot, gros, ah, ben oui, ben écoute, tout ça, ça m'a échappé. Et du coup, il a tout cassé. Mais bizarrement, c'est ce soir-là que quelque chose s'est soudé. On a fini en. Il s'était pourtant blessé en cassant une vitre. Enfin bon. Mais on a fini par rigoler comme deux étudiants en goguette.
Depardieu est un homme très occupé, il doit parfois même s'absenter du tournage, partir, prendre l'avion, revenir. Et donc Jean-Paul Rapneau est très inquiet. Mais après ce soir de discussion, ils s'entendent bien, il y a même une admiration commune.
Oui, c'est une vraie révélation, j'aime. Son angoisse, son quotidien d'angoisse me convient, tout à fait. J'aime bien que les metteurs en scène, c'est là où ils deviennent des auteurs, quoi. Avec lui, on a répété, avec lui, on a tourné. Et avec lui, on a toujours été en balance entre l'angoisse et ce qu'on avait envie de faire. Quoi.
Contrairement à nombre des films dans lesquels il joue, Depardieu connaît ici son texte par cœur. De toute façon, il n'a pas le choix. et en s'inspirant partiellement des comédiens qui l'entourent, il a trouvé le ton juste pour rendre vivants ces alexandrins.
Il me manque une rime en neutre. On paye du blanc cabidon, c'est pour me fondir le mot bleutre. Tac par la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche.
Cyrano, c'est aussi de l'action. Et c'est l'un des meilleurs maîtres d'armes du métier, l'anglais William Hobbs, qui dirige les combats et règle les duels. On le retrouve derrière les duellistes de Ridley Scott, dont Thibaut a fait un épisode express. Et son travail sur Excalibur de John Boorman, Pirates de Roman Polanski ou encore Willow de Ron Howard parle pour lui. L'idée générale, c'est de manier les épées comme à l'époque où se situe le film. Il est secondé par le cascadeur français Michel Carliez, qui prépare les séquences d'action et de combat et qui double également Depardieu. Aucune blessure grave n'est à déplorer durant les cascades. En revanche, derrière la caméra, le chef opérateur Pierre Lhomme, lui, se casse la cheville. On fait venir un de ses confrères de France pour l'épauler, mais Pierre Lhomme continue le tournage tant bien que mal et fidèle au poste. Il y a un autre accident sur le tournage. La chambre de Roxane est reconstituée en studio. Elle y lit les lettres de Cyrano à côté d'un feu de cheminée et une fois la journée terminée, tout le monde rentre. Mais la cheminée a dû être mal éteinte car le lendemain, en allant sur le plateau, l'équipe découvre une fumée noire au loin et constate avec horreur que les studios ont brûlé dans la nuit. Aucun blessé, mais beaucoup de casse. Prends le bas de combat, il faut laisser de côté les autres séquences dans la chambre et se rabattre sur d'autres scènes. L'équipe décoration va devoir reconstruire à nouveau la chambre de Roxane, et cette fois, ces séquences seront tournées en France à la fin du tournage, dont le clap de fin est donné durant le mois de novembre 1989, après 6 mois de travail.
Je t'aime. Je suis tienne et tu m'as enivrée.
Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose.
Un baiser.
Hein ? Quoi ? Vous demandez ?
Oui, je... Tu vas trop vite.
Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite.
Oui, j'ai demandé, c'est vrai.
Mais juste cieux.
Je comprends que je fus bien trop audacieux. Alors ?
Non.
Ce baiser, ne me l'accordez pas.
Pourquoi ? Tais-toi, Christian.
Que dites-vous tout bas ?
Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde. Je me disais... Tais-toi, Christian !
À Paris, le montage est assuré par Noël Boisson. Elle est déjà couronnée par 2 Césars du meilleur montage pour « Qu'est-ce qui fait courir David » d'Elie Chouraki et « L'ours » de Jean-Jacques Hano, un montage qui aura duré 1 an et demi. C'est la première fois qu'elle travaille avec Jean-Paul Rapneau. Elle découvre un réalisateur qui a besoin de monter selon une organisation méticuleuse. La rythmique est très importante à ses yeux, il faut chercher le bon rythme et bien sûr se caler sur le tempo des alexandrins. Et cela prend du temps. Au début, Noël Boisson prend peur que le montage ne prenne un retard considérable. Mais une fois que la monteuse et le réalisateur commencent à s'accorder, les choses se déroulent sans encombre.
En général, Jean-Paul, au départ, c'est toujours la dernière prise. Parce qu'au cours de sa manière de tourner, chaque prise a quelques secondes de moins. C'est-à-dire qu'on sent bien que le rythme que Jean-Paul donne, c'est pas après au montage, c'est dans ses plans. Et ça, c'est un des rares metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, qui travaille le rythme à l'intérieur de sa prise. Et là, si une première prise fait 1 minute 10, ben la seconde prise, elle va faire 1 minute 5, puis la troisième prise, et puis au fur et à mesure, la dernière prise, ça y est, ça galope, ça avance, c'est là le rythme intérieur. Et ça, donc en général, ben Jean-Paul, il préférait quand ça allait et que c'était bien dynamique. Et donc, c'était souvent les dernières prises qui l'entouraient, enfin, qui disaient la mieux, évidemment, puis c'est là qui lui allait bien. Donc, il s'arrêtait à ce moment-là.
Rapneau aimerait que la musique du film sonne comme un opéra, et il choisit de travailler avec Jean-Claude Petit, le compositeur de Jean de Florette et Manon Dessources. En découvrant le premier montage, Jean-Claude Petit se rend compte de la grande qualité du film. Il est très motivé et livre une composition remarquable. La post-production se termine et Jean-Claude Carrière se souvient de la première projection privée du film terminé.
On était, je crois, 5. C'était la première projection avec Jean-Paul, le monteur... le producteur et, je crois, le musicien. Ça a été un silence pendant tout le film. Et à la fin, on s'est regardé. On s'est dit, c'est pas mal, quand même. On avait l'impression qu'on avait tous fait notre meilleur travail, y compris le décorateur, et y compris Gérard, qui est magnifique dedans. Quoi. C'était un silence à la fin. Quoi. On s'est tous levés, presque sans rien dire, mais avec une espèce de satisfaction intérieure, qui par la suite ne s'est pas démentie.
Et effectivement, le film est très bien reçu. 4 700 000 spectateurs se précipitent en salle. Le film est troisième au box-office français annuel, dépassant même Ghost, Nikita, Allô Maman Ici Bébé, Pretty Woman et Chérie J'ai Rétréci les Gosses. Alors que le film est déjà sorti en salle, il est programmé au Festival de Cannes où Gérard Depardieu reçoit le prix d'interprétation masculine. Plus tard, le soir du 9 mars 1991, Cyrano reçoit 10 Césars sur 13 nominations. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, photographie, décor, costume, montage, son et Depardieu et Jacques Weber sont également couronnés.
Nous avons l'air là de remporter une sorte de victoire, mais pour moi, c'est une victoire de toute notre profession. Le cinéma français est vivant. Il ne doit pas douter de lui-même comme il le fait trop souvent. Nous savons faire des films. Nous savons aussi les produire. Et à cette occasion, je voudrais vous présenter deux hommes qui ont eu l'audace de produire ce film. Et il fallait de l'audace il y a 2 ans, à l'époque où on n'y croyait pas trop autour de nous. Et ces deux hommes sont René Kletman et Michel Sédoux, mes producteurs, mes amis.
Et le film est couvert de distinctions dans le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, le film de Rapneau obtient le Golden Globes du meilleur film étranger et même 5 nominations aux Oscars, avec à la clé celui des meilleurs costumes. Gérard Depardieu, lui, devient une star à Hollywood. Il obtient le Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie pour Green Card, mais rate l'Oscar pour Cyrano. En 1995, Cyrano reçoit également le César des Césars. Le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau est à juste titre considéré comme un classique instantané. Et pour l'anecdote, en 1989 et 90, Jean-Paul Belmondo finit par interpréter Cyrano lui aussi, mais au théâtre, dans une mise en scène de Robert Hossein. Alors moi j'ai vu le film à sa sortie au cinéma alors que j'étais au collège, en 3e, option art plastique, et notre prof de français, notre prof principale, Madame Joyeux, nous faisait lire la pièce de Rostand à l'époque, et évidemment elle a organisé une sortie au cinéma, le cinéma Gaumont-Gambetta à Grenoble, un cinéma qui a aujourd'hui disparu au profit d'un supermarché, signe des temps. Et je connaissais pas Rapneau, et je m'attendais à un film statique, du théâtre filmé, un peu chiant et tout ça. Et en fait, au contraire, je découvre ce film plein de fougue, visuellement superbe, avec un Depardieu habité, passionnant. Et évidemment, comme on l'avait étudié, moi j'avais compris le romantisme de cette histoire, tout ça. Mais je m'attendais pas à oublier les Alexandrins, et je m'attendais pas non plus à cette qualité formelle. Et j'en suis ressorti vraiment conquis. J'ai revu le film en VHS avec toujours le même plaisir. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais je suis sûr d'avoir entendu Rapneau en parler lors de la sortie VHS. Mais il faut savoir que les films sont tournés généralement à 24 images par seconde, depuis le cinéma parlant, quoi. Et lorsque les films étaient transférés en vidéo, pour les VHS, en DVD, pour les diffusions télé, il fallait modifier leur cadence de lecture, car la vidéo européenne, elle est cadencée à 25 images par seconde. Et donc il en résulte une petite accélération du film qui peut se sentir, notamment en écoutant la musique. Et Rapneau trouvait que cette légère accélération déformait le timbre des comédiens et changeait la nature du rythme. Et donc il a forcé les laboratoires à fournir une copie vidéo cadencée à 24 images par seconde, ce qui était très rare, voire peut-être même unique à cette époque, quoi. Pour vous dire un peu l'exigence du bonhomme, qui pouvait se le permettre, vu le succès du film et tout ça. Et là, j'ai revu le film dans un Blu-ray sorti chez Pathé avec une très belle copie restaurée en 4K, supervisée en 2018 par le chef opérateur. Et d'ailleurs aussi avec un très bon supplément rétrospectif sur le film réalisé par l'incontournable Jérôme Ouibon. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis. Je trouve toujours que Cyrano est génial. Sans temps mort, vivant, impressionnant. La beauté, la force du sujet, la qualité du texte, les costumes, les décors, les comédiens évidemment... J'ai remarqué plein de subtilités dans le jeu de Depardieu et j'ai aussi redécouvert la qualité du jeu de Jacques Weber en Comte de Guiche. Je perçois mieux toute l'ironie, la précision du comédien, c'est vraiment du bonheur, quoi.
Je viens prendre congé.
Vous partez ?
Pour la guerre.
Ah ?
Ce soir même.
Ah ?
J'ai des ordres, on assiège Arras.
Ah, on assiège ?
Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige.
Mais non.
Mais si, hélas. Vous reverrai-je ? Quand ? Vous savez que je suis nommé maître de camp ?
Bravo.
Du régiment des gardes.
À des gardes ?
Vous sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas.
Comment les gardes vont là-bas ?
Tiens, c'est mon régiment.
Christian.
Qu'avez-vous ?
Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre.
pour la première fois me dire un mot si doux, le jour de mon départ.
Et mon seul bémol, j'ai toujours eu ce bémol-là, c'est que j'ai toujours trouvé que la fin, l'agonie de Cyrano, là, est un peu trop longue. Et pourtant, c'est un vrai tour de force technique, hein, cette séquence. Parce qu'elle a été tournée sur une semaine. Alors, bonjour le casse-tête pour les raccords avec les nuages, pas les nuages, soleil, pas soleil, tout ça. Et on voit progressivement le jour tomber. C'est-à-dire que dans la séquence, on démarre à la fin de la journée, le soir est bien entamé et on termine avec l'éclairage à la pleine lune, quoi. Donc c'est un vrai tour de force technique. Mais malgré tout, je trouve que c'est un tout petit peu long, quoi. Mais honnêtement, c'est un point de détail, hein, parce que le reste, c'est d'un très très haut niveau. Et bizarrement, même s'il est présent sur pas mal de plateformes SVOD, hein, on trouve à retour à l'écran que le film tombe un peu dans l'oubli. On n'en parle plus vraiment, on n'a pas l'impression qu'il passe souvent à la télé non plus. Et donc ça nous paraissait intéressant de le remettre en lumière à notre modeste niveau. Et donc n'hésitez pas à le voir ou le revoir, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, ça vaut pour l'ensemble de la carrière de Rapneau, hein.
Et tout à coup me trouve
nez à nez.
Face à face. Oui, avec son braillard enragé qui puait.
À plein nez.
L'oignon et la vinasse. Je bondis, front baissé.
Nez au vent.
Et je passe. J'en estomaque deux. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte.
Pif.
Tonnerre. Sortez tous.
Voilà, c'est la fin de ce retour à l'écran express. Vous pouvez retrouver nos anciens épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, des étoiles pour nous aider dans les référencements. A très vite, à ciao, bonsoir.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement, là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.